En Ukraine, le Parlement va annoncer cet après-midi s'il accepte ou non Viktor Yanukovych en tant que Premier ministre. Il ne devrait pas y avoir de surprise. À l'Assemblée, le parti pro-russe de Yanukovych est majoritaire. Le président Viktor Yushchenko a donc fini par céder cette nuit en nommant son rival à la tête du gouvernement. Cela pour, dit-il, préserver l'unité du pays. Le geste est fort. Depuis 2004 en Ukraine, le pouvoir du Premier ministre est renforcé. Grosse perturbation aujourd'hui dans les trains du sud de la France. Tout le trafic est interrompu jusqu'à demain entre Montpellier et Nîmes. C'est la conséquence du déraillement d'un TER à Vestric tôt ce matin. Il n'y a pas eu de blessés. Également perturbé, le trafic de certains TGV en provenance de Paris ou de Lille vers Montpellier. Deux marins sont toujours portés disparus au large de Barfleur en Haute-Normandie. Les recherches continuent dans la Manche. L'embarcation comptait 4 hommes à son bord. Seuls 2 ont été retrouvés sains et saufs. Pas d'accord entre le ministre de la Santé et les chirurgiens libéraux hier soir après 8 heures de négociations. Xavier Bertrand a proposé la prise en charge par l'assurance maladie des 2/3 de leur prime d'assurance, mais rien n'a avancé sur la revalorisation de leurs honoraires. Les médecins libéraux continuent donc leur grève. Les opérations d'urgence seront assurées. L'impôt sur la fortune va rapporter près de 20% de plus cette année que l'an dernier, 300 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État. Et tout de suite, on fait un saut à la Bourse de Paris. Et aujourd'hui, la Bourse est en hausse. Et aujourd'hui, un petit problème nous empêche de connaître les pronostics de la Bourse. Donc, 14h et bientôt 4 minutes, on retrouve l'Afrique enchantée avec Vladimir Cagnolari et Soro Solo. Bonjour.
Bonjour Julie. On vous retrouve évidemment tout à l'heure pour les infos avec les tendances de la Bourse qui, à mon avis, ont dû être victimes d'un petit coup de sorcellerie de derrière les fagots. En tout cas, comme on n'est pas dans le même studio, Julie, vous pouvez pas nous voir, mais sachez que pour faire cette émission avec Solo, on s'est transformé en sorcière. Oui, en hibou même.
Co. Hey, viens là. C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée.
Oh yeah.
Vladimir Cagnola, Solo Soro,
yeah.
De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Comme tous les jours ouvrables, nous vous invitons à un voyage musical sur le continent africain. Et aujourd'hui, nous allons nous enfoncer dans le monde terrible et inquiétant de la sorcellerie. Et oui, nous partons dans les dédales des cimetières et des forêts obscures, où résonne la voix lugubre d'hommes transformés en hiboux comme nous, et où glissent dans les feuillages des serpents boas à l'œil étrangement humain. Tandis que plus loin, à la ville, des voitures sans conducteur rôdent silencieusement en route vers l'aéroport où s'apprêtent à décoller des sorciers vers des destinations inconnues. Bon, si tout ça, ça vous fait pas peur, suivez-nous. Nous allons nous enfoncer ensemble dans une bien étrange Afrique. Et comme tous les jours, pour nous accompagner dans ce voyage sur le continent, j'ai la chance d'être assis en face du grand maître de la société secrète des ambianceurs noctambules, celui qui ne s'est jamais inquiété de voir un taxi sans conducteur au point qu'il est même capable de s'endormir sur la banquette, à condition bien sûr que la voiture l'emmène vers un lieu de danse, de fête et d'ambiance. J'ai nommé Solo Soro. Bonjour Solo.
Bonjour Vlad.
Ça va?
On se prépare, on fait aller.
Dis-moi, tu as déjà voyagé, toi, dans une voiture sans conducteur?
Non, pas à Abidjan. Mais ici, à Paris même.
Comment?
C'était... On dirait même que c'était mieux qu'une voiture, parce que c'était un métro.
Et
je me suis réveillé, il n'y avait plus personne à bord, plus de chauffeurs, plus de passagers. Ça faisait en fait un moment qu'on était arrivé au terminus de la ligne. Mais tu sais comme je suis, quand je m'endors en route, à part un tremblement, je ne vois pas ce qui peut me réveiller.
Un tremblement de terre, mais toi vraiment, tu es un sorcier du sommeil improvisé.
La cuica.
La 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 la
Ça ne fait rien si c'est même si c'est trop. Nous avons vendu au plus offrant des armes et des perles. Sacrifice ici, sacrifice là-bas. Il faut nourrir des divinités de plus en plus au monde. Attention, le grand sorcier va parler.
Cette fois-ci, tout va changer.
La chasse et les maladies et les guerres.
Et les champs vont refleurir.
Sur France Inter, le grand sorcier, et c'est pas le Congolais réellement, accompagné du Camerounais Manu Dibango. Auditeur de France Inter, je vous prends à témoin. Cette chanson, ça c'est vraiment un cas de sorcellerie.
Oui,
parce que...
Comment?
Vous avez entendu à côté du piano, c'est un instrument...
La cuica.
Vlad qui connaît, qui sait tout, il m'a dit que c'est la cuica, que c'est au Brésil qu'on trouve ça. Non, c'est pas vrai, je vous assure. C'est un instrument de mon peuple, du pays Senoufo. Ça s'appelle Nankulungu. Le bœuf ou la vache qui beugle ou qui rugit, ou tout ce que tu veux. Oui, c'est un pays Senoufo. Et c'est par sorcellerie qu'on a transposé ça au Brésil, j'en suis certain. Oui, j'ai Vlad, c'est vrai.
Non, mais sérieusement, en tout cas, l'instrument existe vraiment chez vous.
Mais oui, non, mais comment vous imaginez? Non, c'est pas pour amuser la galerie, hein. Ça s'appelle Nankulungu.
J'aime bien quand tu montes sur tes grands chevaux.
Ah ouais. C'est, si tu veux l'instrument. Et c'est, moi j'ai déjà vu une cuica pour Ibrahim. Et c'est la reproduction de cet instrument Senoufo, qui est en fait un tronc de bois qu'on a vidé, et aux deux extrémités, on tend une peau en cuir, et à l'une des extrémités, on traverse la peau par une lanière en cuir également, sur laquelle... Mais en fait, je suis en train d'écrire un instrument sacré. Oui, il est, cet instrument en pays Senoufo est encore sacré. On passe par une phase d'initiation pour le jouer ou pour participer au concert de cet instrument qui se joue
pour les, dans les rituels des funérailles.
Et les initiations chez vous aussi, elles se passent dans les bois sacrés ou bien dans la forêt. Et la forêt, c'est un monde étrange, un peu comme celui qu'on va visiter aujourd'hui.
Tout à fait.
Et justement, Solo, pour commencer, le personnage du sorcier, il existe à peu près partout sur le continent, et ça, quelle que soit la religion dominante et l'état de développement du pays. Mais par contre, le nom de sorcier qu'on colle en général un peu vite, c'est un nom qui recouvre plein de réalités différentes.
Ah oui, en fait, souvent, on donne le nom de sorcier aussi bien aux guérisseurs qui a la connaissance des plantes et qui fonctionnent comme un médecin traditionnel, quoi. Mm-hmm. Nous, on constate que les Européens, ils appellent aussi sorcier, donnent ce nom au devin qui, lui, il dit plutôt l'avenir, qui voit les esprits. Ça peut être aussi celui qui pratique et qui protège et lui-même libère d'un sort qu'on a jeté à quelqu'un. Mmh. Tout ça, on constate que les gens, les Européens les appellent sorciers. Même quand il s'agit de quelqu'un qui est bel et bien est capable de jeter un sort maléfique. Et donc, le personnage du sorcier, il peut avoir l'un ou l'autre de ses pouvoirs, ou bien tout à la fois. Mais bien souvent, le terme est un peu flou. Le terme de sorcier, en tout cas, je le trouve un peu flou. Et il a été donné par les colons et surtout par les prêtres venus nous évangéliser, soi-disant pour nous civiliser.
Et comment ça se passe justement chez toi en pays Sénoufou, toutes ces différentes fonctions, le devin, le guérisseur, celui qui peut libérer d'un sort ou bien celui qui peut jeter un sort?
Mais chez moi, en tout cas, ce sont différents noms qui désignent les personnages que je viens de citer. Mmh. Celui qui soigne par les plantes, le guérisseur, le médecin de la pharmacopée, lui, on l'appelle Nungmon. J'en ai déjà parlé cette semaine. Ça veut dire le frappeur de racines. Mmh. Parce que c'est essentiellement des racines, des écorces d'arbres, des feuilles. C'est tout cela qu'il mixe pour en obtenir des décoctions pour soigner telle ou telle maladie. Le devin, celui qui voit et prédit l'avenir. Celui qui interprète aussi les mauvaises ondes, les bonnes ou les mauvaises ondes qui peuvent agir sur nous, qui peut nous libérer d'un sort. Lui, il s'appelle Sando. Si je vais traduire littéralement, ce serait le tombeur de maléfices. Mm-hmm. Et c'est celui-là que je compare au psychanalyste occidental.
Et celui dont on peut dire que c'est un sorcier bénéfique.
C'est un sorcier bénéfique, mm-hmm. puisqu'il te fait parler, il te pose des questions sur ta famille, sur ce que tu as mangé, tes relations avec tes voisins, tes rivaux, etc. Et c'est de tout cela qu'il en dégage une analyse pour te prescrire ce que j'appellerais une ordonnance. Et ces spécialistes de la santé physique et mentale ne sont nullement des prêtres qui dictent et gèrent le code de conduite de la foi. On se demande encore, en tout cas nous aujourd'hui sur le continent, on se demande encore, mais pourquoi donc ces prêtres qui ont débarqué sur notre continent pour soi-disant nous civiliser, ont décrété que notre conception de la vie et notre médecine était satanique ou païenne. On se le demande encore.
Mais c'est souvent ça que recouvre le terme sorcier, puisque en général, c'est quand même un terme qui a une connotation péjorative. Par contre, Solo, dans les différents noms que tu m'as cités chez toi, là, en pays Sénoufou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, tu veux pas parler du nom qu'on donne aux sorciers maléfiques. Ça n'existe pas, ou quoi?
Si. Désolé, autant pour moi. Mm-hmm. C'est Déou. Et Déou, franchement, je ne saurais traduire littéralement en français. Je trouve pas le mot, mais c'est ce qui a rapport avec la nuit. Avec le secret de la nuit, c'est le Déou. C'est lui le sorcier maléfique.
Et tu l'as dit, c'est vrai que les prêtres qui ont démarré l'évangélisation chez vous ont rejeté souvent toutes les croyances traditionnelles comme des superstitions, en mettant tout dans un même sac, et tous les rites, du coup, qui étaient associés comme des choses païennes et aussi sorcières. On mettait tout ça dans le même sac. Or, la religion traditionnelle, c'est pas exactement la même chose que de la sorcellerie. C'est quoi les rapports ou bien la différence?
Pas du tout, ça n'a rien à voir. Moi, ce que j'appelle la religion chez nous, en tout cas dans ma tribu des Sénoufos, elle est une et une seule. On croit en l'existence d'une force supérieure qui a créé le monde et que nous, on appelle Kolotiolo. Si on traduit littéralement, ce serait la femme du monde. Sous-entendu, la femme qui a créé le monde et qui règne sur le monde.
C'est une femme qui a créé le monde, chez
oui.
Vous. Oui. Bien progressiste, en tout cas.
Oui, tout à fait. Et le Kolotiolo, pour nous, il est partout. Il entend tout. Il sait tout. Même ce que nous pensons. Exactement comme c'est écrit dans la Bible. Le Kolotiolo se révèle à nous à travers la nature. Nous pensons donc que toute chose est animé de l'esprit de Colocholo. Et pour adorer Colocholo, on dispose d'un hôtel construit en terre battue dans un coin de la cour familiale. Et pour les grands moments d'adoration, les adorations élargies à la dimension de la grande famille, on dispose d'un lieu, soit auprès d'un cours d'eau, soit au pied d'un rocher ou d'un grand arbre, généralement fantastique, qui a des formes bizarres, un peu étranges. Et les intermédiaires entre nous, les vivants, et notre Colocholo, et notre femme du monde, qui a créé le monde, ce sont les esprits de nos ancêtres. Hier, on en parlait encore. Mmh. Et il y a les esprits des ancêtres qui sont nos intermédiaires entre les vivants et Colocholo. Il y a aussi les mandébels. Les mandébels, ce sont... je les compare aux anges, parce que dans la conception de l'univers du Tsenoufo, il y a dans l'esprit de la nature des mandébels. Il y en a qui sont maléfiques, il y en a qui sont bénéfiques, et qui sont aussi en lien direct avec Colocholo. On peut passer par les mandébels bénéfiques pour nous adresser aussi à Colocholo.
Et du coup, justement, ça c'est l'univers de la religion traditionnelle.
Ouais, voilà.
Et où est-ce que se place la sorcellerie par rapport à ça? Parce que justement, ici, on a souvent été intoxiqué en rejetant aussi, à la suite des premiers évangélisateurs, toutes les religions traditionnelles comme étant de la sorcellerie. Or, justement, tu viens d'expliquer que c'était pas la même chose. Mais du coup, comment elle se positionne chez vous par rapport à ça?
Parce que ce que je viens de décrire, ça c'est la pratique de la foi, de la croyance. Et il se trouve que les guérisseurs, qu'ils soient le psychanalyste dont j'ai parlé, ou celui qui connaît les plantes médicinales, leur ordonnance, leurs pratiques sont souvent assorties des rituels en rapport, en lien direct avec Colocholo, avec la foi, avec même une dimension mystique. Et je pense que c'est peut-être ce fil d'Ariane qu'il y a entre le guérisseur, le médecin et les pratiques de la foi, de la croyance en cet être supérieur, qui a fait faire la confusion aux soi-disant civilisateurs. Et ils ont tout rejeté en bloc, et y compris des œuvres d'art.
En tout cas, ça veut dire que la sorcellerie reste toujours, même reliée à la religion traditionnelle, elle reste en marge de la religion traditionnelle, c'est bien ça?
Elle reste complètement en marge.
En tout cas, Solo, là tu parlais de la tradition, donc plutôt de l'univers villageois où elle subsiste encore. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec le développement des villes, on aurait pu croire que la sorcellerie s'était complètement évaporée avec toute la modernité qu'il y a dans les villes. Et apparemment, c'est pas le cas.
Eh ben disons, parce que tu crois qu'on se débarrasse aussi facilement d'un train de culture. Non, il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec nos cousins des Amériques. Trois siècles nous séparent, des milliers de kilomètres nous séparent, et je retrouve Nangung là-bas qu'on appelle la cuica.
Le fameux instrument.
Oui, le fameux instrument. Non, je crois que quel que soit le niveau de modernité des individus, un grand nombre de gens en ville croient aux sorciers. Parce que tout ce qui nous arrive d'irrationnel, d'inexplicable, de fantastique, tout ça est forcément lié à la sorcellerie. Je te donne un exemple. Dans mon quartier à Marcoré, à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, voilà un monsieur qui a sa maison qui donne sur un virage un peu dangereux. Mmh. Et un véhicule, ce qu'on a traité dans les transports collectifs, un woro-woro, donc un véhicule délabré, très souvent aux freins qui ne fonctionnent pas très bien. Bref, le chauffeur il roule à tombeau ouvert, il rate son virage et on s'engouffre dans le séjour de monsieur X, oui,
qui a regardé la télévision,
qui était lui posé au milieu de son séjour avec sa famille à discuter et se fait écrasé dans son salon. Une voiture qui rentre à l'intérieur d'une maison et écrase quelqu'un.
Est-ce que c'est possible?
Non, mais les sorciers de son village. Vous avez vu ce que j'ai vu? On a envoyé la voiture, le tuer jusque dans son salon. Voiture tue l'homme sur la route, mais pas dans sa maison. Voilà les exclamations. On a donc dit, ce sont les sorciers de son village. Et c'est ce genre de situation, dès qu'on ne peut pas l'expliquer, quand c'est extraordinaire, rocambolesque, oh Dieu, ça c'est les sorciers du village. C'est ça. Voilà pourquoi la sorcellerie persiste en ville. Et il ne faut pas croire que ce sont les analphabètes ou ceux qui restent dans la culture du village. Non.
universitaire, médecin, docteur, docteur d'État. Tous croient à la sorcellerie.
Hey, bon, bah, Solo, je te propose qu'on aille faire un petit tour chez le devin pour connaître un peu notre avenir et savoir ce qui va se passer d'ici la fin de l'émission. Et comme on est très riche, on va se payer le luxe de descendre tout au sud du continent, à 11 000 km de Paris, consulter le Isangoma, le devin qui officie en Afrique du Sud. Et on est avec Myriam Makeba.
Par la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba sur France Inter. Et Isangoma, c'est le devin. C'est la personne qui, avec un matériel mystique, c'est parfois des ossements d'animaux célèbres de la forêt, gorilles, chimpanzés, éléphants, gros de crocodiles, ou des galets de rivières, ou des racines, voire des statuettes, et faire tout cela qui constitue son artillerie pour consulter les esprits. De jeter les os et les galets et tous ces objets réunis, les répandre par terre, et c'est la position
que chacun des éléments prend la figure géométrique qu'elle forme en fonction des quatre points cardinaux. C'est tout cela qui permet au Isangoma d'interpréter la situation de la personne qui est venue consulter. Et c'est exactement la même chose que le Sando en pays Senufo de chez moi. Oui,
le Isangoma. Tu veux dire que les Brésiliens vous ont volé la cuica, maintenant tu veux dire que les Sud-Africains vous ont volé le Sando?
Non, ils n'ont pas volé. On partage, nous avons les mêmes croyances et les mêmes enseignements, les mêmes techniques, les mêmes sciences. Voilà.
D'accord. En tout cas, Solo, justement, pour parler du devin, est-ce qu'il est encore très consulté et dans quelles circonstances on consulte en général?
Comment? Les devins, on les consulte matin, midi, soir, jusqu'à demain, on continuera de les consulter. Parce que, par exemple, quand quelqu'un veut voyager, je ne parle pas seulement du rural qui quitte sa cambrou pour venir à la ville, moi, il n'y a qu'à voir mon cas de figure. La première fois, je venais faire des études en France.
Tu as consulté?
Comment? Les parents m'ont amené pour consulter le devin et en demandant d'invoquer les esprits pour qu'ils me protègent. On dit, notre fils va prendre la pirogue qui vole. C'est comme ça qu'on appelle l'avion dans ma langue. Il va prendre la pirogue qui vole pour aller au pays des Blancs. Vous voyez les gens qui ont la couleur des génies de la nature. Il s'en va là-bas, il faut le protéger. Il faut nous dire si sa route va bien se dérouler. J'ai consulté. Donc à l'occasion d'un voyage, on va consulter le devin. Et puis aujourd'hui, dans les fonctions de pouvoir, à l'occasion d'une nomination à un poste de responsabilité, PDG, président, directeur général de la société, machin, chose, truc, les gens ils vont consulter pour dire j'aimerais être en meilleure position pour être nommé. Voilà, je m'en tiens là aujourd'hui.
En tout cas, c'est comme ça chez toi, mais c'est vrai aussi, par exemple, à Madagascar, où on utilise un procédé de divination qui s'appelle le Sikidi. Et justement, on le consulte, par exemple, pour un départ en voyage, comme ça a été ton cas aussi, mais aussi pour savoir le responsable d'un vol, ou bien pire, d'un meurtre. Et puis, si vous étiez avec nous hier, on a croisé sur notre route, quand on était à Madagascar ensemble, le Mpananju, c'est-à-dire celui qui dit le jour, littéralement, c'est un devin, qui connaît aussi, qui est versé dans les sciences astrologiques, et souvent, c'est lui aussi qui connaît la façon dont on interprète ce fameux procédé de divination qui est le skill, qui se fait pas avec des osselets ou mais avec des graines, là, cette fois-ci, des graines végétales. Et donc, en tout cas, le Mpananju, il pouvait aussi décider le nom de l'enfant qui allait naître, parce qu'en fonction de l'heure et du jour de la naissance de l'enfant, il pouvait savoir s'il avait ce qu'on appelle un destin lourd ou un destin léger. Un destin lourd, ça pouvait être un destin qui nuisait à ses parents. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore me dire que les Malgaches vont voler vos affaires?
Non, pas du tout. Je l'ai dit, mais c'est la même chose qui s'est passée au Nigeria à l'occasion de la naissance du célèbre chanteur que nous connaissons, que nous avons beaucoup joué, Fela Anikulapo Kuti. C'est le Sango ou le Sando de son village qui a dit à sa grand-mère: ce que je lis sur cet enfant, il portera toujours la mort avec lui. Et on va l'appeler Anikulapo Kuti, l'homme qui porte la mort dans
son carquois.
Voilà.
Je ne savais pas ça. Et en tout cas, quand un enfant comme ça peut avoir un destin lourd, dangereux potentiellement, eh bien, dès la naissance, on lui prépare des talismans, donc ils peuvent être des bracelets avec certaines perles bien spécifiques ou des morceaux d'écorce ou de racines et qui sont censés alléger le destin un petit peu trop lourd et faire qu'il ne soit pas dangereux pour ceux qui sont autour de lui. Allez, Solo, on va rester à Madagascar et retrouver le chanteur Rajeri, qui est aussi joueur de vali. La vali, c'est cette sitar emblématique des musiques de Madagascar. En fait, c'est un morceau de bambou sur lequel on a tendu des câbles et des freins de vélo. Et Rajeri, c'est un virtuose de cet instrument. Et c'est très impressionnant de le voir faire courir ses doigts sur les cordes. D'autant plus que les doigts, il lui en manque 4 à cause, justement, d'une sombre histoire de sorcellerie.
Il y avait une cérémonie de mariage dans notre petit village et ma soeur m'a porté sur son dos et elle n'a pas remarqué derrière. La dame a donné le morceau de viande derrière. Moi, je n'ai pas pu avaler le morceau et après, j'étais étouffé. Donc, il y a ma soeur aînée qui a couru pour enlever le morceau. Bon, le soir même, j'avais eu des fièvres. Mais bon, tout le monde croyait que c'est du fièvre. C'était pas à cause du morceau. Mais la question s'est posée, qui a donné le morceau de viande? Et quelques jours plus tard, tout le monde a remarqué que ma langue a retourné à l'intérieur. Donc, c'est devenu comme ça, on ne trouvait pas la langue, c'était retourné à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, que la famille a compris que c'est à cause du morceau de viande. Et après, je n'ai pas pu boire le lait de maman, ni manger. Et c'était difficile parce que j'ai failli mourir. Et le problème, c'est à la campagne, les dispensaires se trouvent à 7 ou 8 kilomètres à pied. Et quand la famille était arrivée, les parents avec les frères qui étaient arrivés à l'hôpital, le médecin dit comment on fait pour retourner la langue à normal. C'est pas écrit dans les livres. Donc il n'a rien fait. Donc ils ont continué à aller à pied à 30 kilomètres. Ils ont continué.
D'hôpital à l'hôpital.
Ouais, de l'hôpital à l'hôpital. Et donc tous les médecins ont abandonné. Et après, la famille est retournée au village, déjà fatiguée, psychologiquement faible. Et là, il y a les gens du village qui ont forcé mes parents, parce que mes parents, c'est chrétien. Donc, eux, pour eux...
On ne peut pas aller voir les guérisseurs traditionnels.
Voilà, les parents n'ont pas voulu voir les guérisseurs. Et les frères et les villageois qui ont forcé mes parents... à aller voir les guérisseurs du village. Donc ils ont accepté parce qu'il n'y avait pas non plus, ils n'ont pas le choix quoi. Et après c'est les guérisseurs qui ont remis à la place la langue avec des plantes, à l'aide des plantes médicinales quoi. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, mon père a remarqué que ça gonfle sur ma main droite. Et ça monte sur les bras.
Et là, tu devrais avoir maintenant un peu plus d'un an.
Oui, bien sûr. Et là, il a mis du garrot pour empêcher l'infection. Et là, on a constaté que c'était bloqué sur les doigts, l'infection. Et tout de suite, on a constaté que c'est comment dirais-je ça?
Tous les doigts de la main ont commencé à se recourber sur eux-mêmes, sur la main.
Voilà. Et ça devient rigide. C'était la forme où j'ai pris le morceau de viande. Donc les parents, ils m'ont emmené encore voir les médecins. C'est toujours le même parcours, quoi. Et là, j'étais fatigué aussi. Donc ils sont allés voir le médecin. Pas loin, c'est un petit dispensaire. Et lui, il a dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Et évidemment, mes parents, ils ont répondu oui. Et après, il a dit, oui, je peux le soigner, mais je mélange aussi les plantes médicinales. Est-ce que vous avez accepté? Est-ce que vous êtes d'accord? Et mes parents, ils ont dit oui tout de suite. Donc, et après, il a fait son boulot et donc c'était une réussite parce que quelques mois plus tard, donc mes quatre doigts étaient tombés, ils s'étaient tombés les quatre. Donc il restait que le pouce et ils ont m'amené à retourner au médecin là. Et lui il a fait une petite simple intervention chirurgicale. Et là donc, ce qui est étonnant dans cette histoire de sorcellerie, c'est que les doigts de bébé restent intacts jusqu'à ce jour. Parce que nous, selon la tradition, on n'a pas le droit d'enterrer une partie du corps quand on est encore vivant. On n'a pas le droit de faire ça. Et là, jusqu'à ce jour, on trouve l'ongle, la peau, les traces des nerfs, les traces de mercurochrome, les os, c'est intact. Pas décomposé. Donc, moi, je tiens également à signaler que l'histoire s'était passée en 1966, parce que je suis né en décembre 65.
Hey,
Attention, Vladimir me surveille de très près. Eh bien, c'est la vie est difficile par le malgache Radjer. Est-ce que j'ai bien prononcé Vlad?
Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal.
Je me débrouille un peu. Hein.
Ouais,
bon, d'accord.
À mon avis, à la fin du mois, en malgache, t'es OK. Solo, en tout cas,
la sorcellerie, pour continuer sur notre sujet, même dans les conflits contemporains qui déchirent le continent africain, on l'utilise comme une arme de guerre.
Absolument, absolument, partout, partout. Et bon, l'exemple que je connais le plus, c'est celui d'ailleurs de mon pays, la Côte d'Ivoire, où un conflit a éclaté en septembre 2002. Mm-hmm. Et j'ai entendu de mes propres oreilles un militaire, un gendarme, qui racontait à ses copains gendarmes. Parce que l'armée nationale était plutôt en déroute. Hein. C'est l'armée française qui a un peu sauvé la situation. Voilà, mm-hmm. Bref. Et voilà le gendarme qui débarque à Abidjan. Les amis, non, c'est pas vrai. La rébellion là, ce sont les nordistes. Ils sont des pouvoirs magiques. Leurs dozos, les dozos. En fait, les dozos, c'est une confrérie de chasseurs qui existe au Mali, dans le pays mandingue en fait. Mm-hmm. Et qui, ce sont effectivement des vrais chasseurs, mais leur métier de chasseur est assorti de pratiques dites mystiques pour chasser le gros gibier, pour nourrir le village. Bref.
Parce que traditionnellement, ils sont chasseurs et aussi guerriers.
Et guerriers. Mm-hmm. Chasseurs et guerriers. Et ils fabriquent leurs propres armes, leurs fusils traditionnels. Et cette confrérie a pris une sorte de développement, c'est devenu une sorte de mode ces derniers temps en Côte d'Ivoire, parce que le banditisme s'est développé et on a fait appel aux dozos pour garder les immeubles, garder des villages, etc. Parce que dans leur région, ils s'étaient auto-organisés pour assurer la surveillance des villages. Bref, voici donc ces dozos qui ont été appelés, invités, incorporés dans l'armée de la rébellion en Côte d'Ivoire en 2002. Et voici l'armée nationale qui se retrouve face à l'armée de la rébellion, parmi laquelle il y avait des dozos. Et comme le pays est majoritairement conditionné psychologiquement face à la puissance mystique des dozos, donc le militaire...
C'est quoi cette puissance mystique toi aussi?
Parce que l'imaginaire populaire pense que le dozo qui manipule le feu, donc de l'arme, a une protection mystique qui fait que lui-même ne peut pas être, le dozo peut pas être abattu avec une balle. Tu lui tires dessus et tu peux pas le tuer. on a nos journaux, nos publications ont toujours été défrayées par des histoires de gens qui sont allés chercher cette puissance mystique, comme on l'appelle, anti-balle. Mmh. Et tout le monde croit que le dozo est anti-balle, tu lui tires dessus, il ne mourra pas. Hey. Y compris les militaires. Donc avec un conditionnement psychologique comme celui-là, ils viennent te raconter des histoires, comme dit notre conteur Maison Binda, qui, comme s'ils avaient été des témoins oculaires, mais en fait, ils ont vu avec leurs oreilles. C'est ce qu'on a entendu dire. Donc, bref, c'est voilà, donc les gens ont dit, oui, les dozos là, ils sont puissants, on peut pas les tuer. Je n'ai vu, quand on a tiré dessus, il s'est transformé en un arbre, on savait plus où était le militaire. Il y en a qui se transforment en lien pour disparaître de la circulation. Enfin bref, des histoires rocambolesques.
Et justement, ça aussi, c'est un trait qu'on retrouve aussi, par exemple, au Congo, où il y avait les milices Maïmaï, où il y a toujours d'ailleurs ces milices Maïmaï qui sévissent dans l'Est. Et Maïmaï, en fait, ça veut dire littéralement haut, parce que on leur prête le pouvoir de changer les balles qu'on leur tire dessus, de changer ces balles en eau. Voilà pourquoi on les appelle Maïmaï. En tout cas, au-delà de ces conflits, on les utilise, tu l'as dit déjà tout à l'heure, dans plein de circonstances de la vie, ces guérisseurs, ces sorciers, pour reprendre le terme générique un peu fourre-tout, pardon, mais on va faire comment?
Oui, c'est ça dont on dispose, ces sorciers.
Et donc, par exemple, c'est assez souvent qu'on voit des chauffeurs de minibus, de transport collectif, qui utilisent des talismans, d'abord pour pas avoir d'accident et se retrouver, comme tu disais tout à l'heure, dans le salon de quelqu'un comme ça à l'improviste, d'une part, et aussi pour ne pas, et ça c'est peut-être encore plus fréquent, pour ne pas être contrôlé par la police. Parce que, comme tu nous as expliqué, que justement les véhicules sont rarement
en bon état,
qu'ils n'ont pas les normes techniques, etc.
Pas en règle vis-à-vis de l'assurance.
Et que très souvent, ils sont surchargés avec beaucoup trop de gens à l'intérieur, ce qui est théoriquement illégal. Bon, tout ça, bref, ça donne des bonnes excuses aux policiers pour les verbaliser ou mieux empocher juste un petit bakchich pour les laisser passer. Et donc du coup, on utilise des talismans. Et par exemple, à Madagascar, il y en a un qui s'appelle Masuleibe Tsimaita. Et ça veut dire « les grands yeux ne voient pas ». Et quand le chauffeur porte ça, et ben en fait, tu peux être sûr que s'il y a une file de 10 minibus ou bien 10 voitures, le policier va contrôler tout le monde, sauf lui là. Le truc, c'est que tout le monde en a. Donc après, on se demande quelle est vraiment l'efficacité de la chose. Mais bon, ça, c'est des paroles d'incrédule. Je les remballe au fond de mon gosier. En tout cas, domaine des transports, domaine de la guerre même, malheureusement. Mais solo, on l'utilise aussi. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est réservé aux gens qui ont peu d'éducation. Y compris, on l'utilise dans le domaine politique.
En haut lieu. Et on a constaté un fait chez nous. Je parle de la Côte d'Ivoire. À la veille d'un remaniement ministériel, il y a une inflation des prix des moutons blancs. Mmh. Parce que le mouton blanc est l'animal prisé pour les gros sacrifices. On constate une inflation du prix du percale. C'est une toile blanche de tissu, une cotonnade. Et parce que je crois que traditionnellement, on prenait les bandes de tissu tissées chez le tisserand, de couleur blanche, ou en tout cas couleur coton, pour faire des sacrifices. Et donc, on a transposé à la ville en achetant du percale blanc, qui est cette toile de cotonnade blanc laiteux. Donc, on cause... pourquoi j'évoque ces éléments? Tout simplement pour dire que à la veille d'un remaniement ministériel, le nombre de gens qui font des sacrifices, soit c'est la personne elle-même qui postule au poste ministériel, mmh, ou ce sont tous les membres de la famille qui souhaitent voir leurs parents nommés ministres, parce qu'on sait que c'est toute la chaîne familiale, pour ne pas dire villageoise, qui va avoir bénéficié des usufruits de sa nomination. Mmh. À l'occasion des consultations électorales générales, élections municipales, élections législatives, élections de secrétaires des partis, c'est encore le raz de marée chez les devins, chez les sorciers, chez les marabouts. Et c'est l'achat des moutons blancs, du percale, des noix de cola, des céréales comme le haricot ou comme le mil. Parce que tout ça rentre dans la composition des éléments qu'on utilise pour faire, entre guillemets, le fétiche qui va porter bonheur, qui va permettre d'avoir ce qu'on souhaite avoir.
En tout cas, avis à vous qui nous écoutez, puisque l'année prochaine, on est censé avoir dans ce pays une consultation électorale. Il y a deux secteurs qui pourraient valoir le coup, en tout cas de se lancer dans ces secteurs-là, si vous cherchez à créer une petite entreprise. Il y a le percale, donc, et tu m'as dit, élevage de moutons blancs, c'est ça?
Voilà, élevage de moutons blancs, vente de percale. Sinon, moi-même, je suis consultant, hein. Il faut qu'on en profite pour se placer, toi aussi.
Comment? Alors, en tout cas, la sorcellerie, on l'a compris, elle est partout. Pourtant, on ne la voit pas, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle fait si peur. Et sur un sujet aussi sérieux, on a décidé de demander l'avis de Zao, qui a l'art, vous l'avez peut-être entendu déjà cette semaine, de tourner tout en dérision, y compris la sorcellerie. Et hier, vous, si vous étiez avec nous, justement, vous avez entendu son dialogue avec le corbillard qui l'a emmené au cimetière et toutes ses multiples tentatives infructueuses pour le corrompre.
En fait, Corbillard, il dit... Corbillard, fais-moi descendre. Je n'ai pas encore payé mes dettes. Je n'ai pas encore fait mon mariage. Je n'ai pas encore touché mon salaire.
Et quand on arrive au cimetière, même ses ennemis sont venus jeter de la terre sur son cercueil.
Première pelle, deuxième pelle, troisième pelle.
Et pendant qu'on l'ensevelit, on entend dire
« c'est mon oncle qui m'a mangé ».
Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on n'est pas mort de manière naturelle.
C'est vrai, chaque mort a toujours une signification chez nous. Mais le plus souvent, c'est toujours... côté des sorciers. Ah, il a été bouffé par son oncle.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Toi, tu peux pas comprendre. Ça, c'est la sorcellerie. Ça dit qu'on lui a jeté soit un sort, mais on lui a bouffé. Donc, c'est des choses comme ça qui se passent. Il y a même des tribunaux qui ne traitent que ce genre de sujet. Ah oui. Je pourrais en citer même Terinkio. C'est un des tribunaux... qui ne parle que de ça.
À Brazzaville,
on rentre carrément dans la superstition.
Justement, la sorcellerie, ça occupe quelle place dans la vie des Brazzavillois ou des Congolais, peut-être en général?
Je dirais que tout le monde est superstitieux chez nous. Hein. Oui, donc, même si tu as le sida, il dit que non. Même s'il fait des examens, non, c'est mon oncle là qui m'a jeté un sort. Il a oublié carrément son mauvais comportement. Il trouve toujours... un bouc émissaire. Même s'il se coupe le pied, même s'il est atteint par une balle perdue pendant la guerre, on dit que oh non, non, c'est pas possible. Comment la balle peut quitter là-bas? Une balle perdue peut quitter, taper sur nous. Non, non. Donc toi, l'angle, c'est toi. C'est toi qui as téléguidé cette balle. Donc on trouve toujours un bouc émissaire.
Et c'est souvent l'oncle, pourquoi?
Ah, parce que c'est lui qui a... Chez nous, on dit le Kundu, c'est lui qui est le sorcier. Le plus souvent, c'est les oncles, c'est les grands-pères, c'est souvent les personnes âgées. Tu sais que les miliciens, ils ont carrément, dans nos villages, ils ont tellement tué nos vieux. Parce que parfois, lorsqu'ils arrivaient dans un front, et lorsqu'il y a beaucoup de tombés, lorsqu'ils reviennent là, chez les vieux, ils disent, quand c'est vous qui êtes en train de faire il les yuki, tout ça. Donc, c'est des choses comme ça qui se sont passées. Hein. Donc, c'est dans les têtes des gens. Donc, pour rien, on peut te tuer. On peut m'accuser ici. Si, j'ai tu es sorcier. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, d'ailleurs?
Ah, mais tu prends la clé des champs. Faut partir. Faut fuir. Moi, j'ai vu des gens qu'on a brûlés comme ça. On va te... comment on appelle ça? Asperger des sens. Tant. Et tu brûles.
Craque un allumette.
Ouais, ouais.
On dirait que chez vous, tout le monde en parle, tout le monde a des histoires, mais finalement, très peu de gens la voient, la sorcellerie.
Oui, ça se voit pas. Puisque il y a eu des gens qui sont venus ici dans Air Congo. Dans un avion, alors que dans Air Congo, ils n'étaient pas détectés par le radar. Hein. Rien. Mais ils ne sont pas quand même posés à Roissy. Je n'ai pas vérifié ça, mais c'est le bruit qui court à Brazzaville.
Ça fait partie des histoires qu'il y a souvent au Congo. Et dans les histoires de sorcellerie, il y a souvent des sorciers qui voyagent de manière invisible,
voilà,
dans des avions.
Il y a même des véhicules sur cale qui tournent la nuit.
Hein? Comment ça?
Mais oui, tu ne peux pas comprendre. Il dit, mais c'est ce véhicule-là que j'ai vu. Ils étaient à bord sur ce véhicule-là. Ah, donc Je ne sais pas quel est ce monde-là. C'est un monde imaginaire ou c'est un monde invisible? Donc, je ne sais pas.
Vous, vous y croyez?
Non, moi, je ne crois pas.
Poka, 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 poka. Paralomé, sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Il avait déjà mangé 9 têtes de lion, mais la 10e tête lui a rougi les yeux. Il avait déjà mangé 9 têtes de lion, mais la 10e tête lui a rougi les yeux. Il s'est transformé en grand hibou pour manger Monsieur Daniel. Monsieur Daniel est trop malin, le sorcier est pris au piège. Il ne savait pas que Monsieur Daniel avait aussi le malin de la nuit. Il ne savait pas que Monsieur Daniel avait aussi le malin de la nuit. Sorcier en sorcellerie, sorcier en sorcellerie, sorcier en sorcellerie. Douze manières trans et malin, et les filles qui croyaient prendre. Et pourtant il avait pu manger son père, il avait pu manger sa mère, il avait pu manger son frère, il avait pu manger sa sœur. Il rentrait dans les verres de bière, personne ne lui faisait la guerre. Il rentrait dans les verres de champagne, personne ne lui faisait la guerre. Mais arrivé chez Monsieur Daniel, le sorcier le malin est fini. Mais arrivé chez Monsieur Daniel, le sorcier maillé l'homme oublié. Shabalabapapala, shabalabapapalalala, shabalabapapapala, shabalabapapala. Ok! Bana boca! Découverte 82.
Sorcier ensorcelé du Congolais de Brazzaville, Casimir Zoba alias Zao.
Solo, écoutez, Zao, ça fait un peu peur quand même de savoir qu'on peut être accusé de sorcellerie n'importe comment à tout bout de champ. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être accusé de sorcier?
Non, pas moi directement. C'est, bon, c'est resté à un niveau raisonnable, hein. C'est plutôt ma mère. Le fait de parler, qu'on entende le fils de Gowo parler à la radio.
Gowo, c'est le nom de ta maman.
C'est le nom de ma mère. Parce que la radio est, dans le monde paysan, est associée à la sorcellerie. Parce que c'est pas possible qu'un être humain soit en train de parler du matin au soir sans jamais sortir pour manger et boire. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi d'autre? Et donc, on pense que la radio, c'est de la sorcellerie. Même si elle est courante, elle est dans les villages, qu'on la prend, on l'a chez soi parfois. Bref. Un jour, on découvre le fils de Poka qui parle à la radio.
Et ma mère qui me raconte, dit, elle suivait une file de femmes qui allait à la rivière chercher de l'eau. Et puis elle entend dire, les dames n'avaient pas vu qu'elle était derrière. Moi, on vous dit, la famille de Gowo là, c'est des sorceaux là, mais c'est des sorciers, vous voyez. Leur fils parle dans la chambre des Blancs, la boîte qui parle sans s'arrêter. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Même si on dit c'est le corps on fait pour parler dedans. Mais il faut être doté de puissance mystique pour parler dans la radio. Mais ça, c'est pas aller très loin. On n'a pas installé ma mère sur la place publique pour un jugement. Mais il y a des régions où un concours de circonstances fait que, imagine, on s'engueule, toi et moi, et puis je te mets, tu vas voir. Tu oses me défier. Tu vas voir de quoi je suis capable. Oui. Je suis puissant, moi.
Attends, je me mets sur la table.
Voilà. Et deux jours après, brutalement, on ne sait pas pourquoi, un véhicule, tu es victime d'un accident de la circulation. Rien à faire, c'est moi qui t'ai tué en sorcellerie à cause de l'altercation que nous avons eue un jour plus tôt, une semaine plus tôt ou un an plus tôt. Et dans ces cas-là, on t'installe sur la place publique et on te fait une sorte de test pour que tu avoues. Et chez les bétés du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, par exemple, ça s'appelle le gopo. Mm-hmm. C'est une décoction d'arbre qu'on te met dans les yeux. Et si tes yeux ne rougissent pas, tu n'es pas coupable. Mais s'ils rougissent, tu vas être coupable. Oh, c'est une décoction hyper piquante. Quelle que soit ta force, tes yeux seront forcément rouges. Alors, c'est parfois, on a tué des gens par la justice un peu trop facile et rapide, quoi.
Et ces histoires de sorcellerie, elles sont quand même tout de même toujours prises au sérieux. Par exemple, au Cameroun, où le code pénal fait de la sorcellerie un délit qui peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison. Et il y a effectivement au Cameroun des procès en sorcellerie, parfois. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de preuves, donc ils sont plutôt basés sur des témoignages et l'intime conviction du juge. Donc évidemment, ça laisse des grandes marges pour l'erreur. Et justement, il y a un livre qui s'appelle « Sorcellerie en justice au Cameroun » et vous en trouverez les références sur le site franceinter.com, rubrique « L'Afrique enchantée », qui a été concoctée, vous le savez, par notre nièce et attachée de production Hortense, qu'on remercie. Et en même temps qu'on la remercie, on va remercier toute l'équipe. Il y a des tas de choses encore qu'on aurait voulu vous dire, mais pardon, donne-nous la route.
Ouais, donne-nous la route.
Hein, et puis de toute façon, on la reprend avec vous demain. Donc merci à Koy Nguyen qui était aujourd'hui, et comme tous les jours jusqu'à la fin du mois d'août, à la réalisation. Thomas Robin et Roland Mahé qui étaient à la technique. Et puis nous, bah, bien sûr, on vous dit à demain, puis on vous remercie vous aussi.
Alors, merci beaucoup les amis de nous accepter dans vos chaumières.
J'ai oublié, remerciements aussi aux documentations et discothèques de Radio France et de RFI réunis.
Il est 15h sur France Inter, les informations avec Julie Gacon.
Deux marins sont toujours portés disparus au large de Barfleur, en Haute-Normandie. Leur chalutier a chaviré cette nuit. Seuls deux occupants ont pu être secourus. Pour tenter de retrouver les deux autres, les recherches se poursuivent, Jacqueline Fardel.
Les recherches se poursuivent ce midi avec les patrouilleurs Pluvier et Géranium arrivés en renfort en milieu de matinée. Les moyens également de la SNSM de Barfleur, Saint-Va et Grand-Camp. Un seul navire de pêche reste sur zone sur les 10 engagés cette nuit. Un hélicoptère des douanes quadrille la zone. Les marins pêchaient vraisemblablement la moule quand leur chalutier a coulé par l'arrière vers 3 heures. Ils ont été éjectés dans une eau à 18 degrés. Les chances de survie s'amenuisent d'heure en heure. Le lieutenant de vaisseau Yann Bizien, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Les deux marins pêcheurs qui sont disparus, qui sont dans une eau à 18 degrés, les courbes théoriques de survie nous donnent 5 heures pour une personne qui a une résistance faible.